Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, une nouvelle chronique aujourd'hui dédiée au Mexicain Esteban Gutiérrez et donc sa nouvelle écurie AS F1 Team. Je vous ruine le suspense tout de suite, enfin de toute façon vous l'avez deviné très certainement en lisant le titre de ce podcast. Avant ça je vais revenir sur le Grand Prix du Brésil puisque je ne vais pas encore faire, j'avais parlé de faire un nouveau type de podcast. J'avais averti que ce ne serait très certainement pas pour le Grand Prix suite au Grand Prix du Brésil, mais que ce serait sur suite au Grand Prix d'Abu Dhabi. Ben, ce sera le cas, ce sera suite au Grand Prix d'Abu Dhabi. Je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire suite au Grand Prix du Brésil. Mais je vais vous faire un court résumé en parlant du podium exclusivement, histoire de ne pas trop durer hein, sur ce résumé. Mais avant ça, je vais parler un peu d'analyse F1. Tout d'abord, je tiens à, quelque part, vous présenter mes excuses pour le dernier High Speed Dating, le High Speed Dating numéro 2 consacré à Lewis Hamilton. Alors certes, il a duré plus longtemps que prévu et plus longtemps que ne le sera la moyenne des HSD parce qu'il s'agit d'Hamilton et c'est le pilote du moment, la star de la F1, donc il faut en parler un peu plus. Mais aussi parce que j'ai cafouillé, hein, vous avez pu vous en rendre compte, je m'en suis rendu compte également en enregistrant le podcast, hein, ne vous en faites pas. Mais voilà, à un moment, quand on est lancé dans le podcast et qu'on est à plus de 10 minutes et qu'on peut plus revenir en arrière, je vais pas le recommencer. Après, je perds du naturel. Bref, le podcast aurait pu être meilleur, c'est ce que je voulais dire. Bien meilleur, je veux dire. Il n'est pas du tout dans la moyenne de ce que je peux produire d'habitude, hein, j'en ai conscience. Et du coup, et à quoi c'est dû? C'est dû tout simplement à une préparation d'avant-podcast un peu tronquée puisque j'ai voulu me dépêcher à enregistrer le podcast et j'ai à peine relu mes notes avant. Du coup, c'est comme si je redécouvrais ce que j'avais écrit la veille. Donc c'est pas bon. Il manque d'organisation. Donc voilà, je n'ai pas d'excuses. Le podcast n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. Voilà. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas. Et vous aussi, vous espérez que ce ne sera pas le cas tout le temps, hein, parce que sinon, vous allez arrêter d'écouter. Hein, c'est aussi simple que ça. Et je vais faire en sorte que Analyse F1 redevienne, soit d'une qualité constante à chaque fois, ne plus commettre cette erreur. Ceci étant dit, d'ailleurs, le prochain HSD sera consacré à Fernando Alonso, double champion du monde, et sera en ligne cette semaine, puisque je veux m'imposer un rythme hebdomadaire pour ce type de podcast. Ensuite, une annonce concernant Analyse F1. Ouais, c'est quand même un peu triste parce que j'aimais bien faire ces podcasts avec Ghislain, mais Ghislain a fait le choix de quitter Analyse F1 et donc sa chronique qui était Rétro GP, voilà, qu'il a si bien mené, hein. Il nous a fait revivre 2-3 Grands Prix qui étaient quand même... C'était sympa de se replonger dans le passé, mais bon, je comprends tout à fait ces raisons pour lesquelles il souhaite ne plus poursuivre l'aventure de ce podcast. Je ne lui en veux pas, au contraire, je lui souhaite une bonne continuation avec son podcast Les Abyssales qui doit déjà pas mal lui prendre de temps. Donc c'est vrai que se rajouter, même si c'est que mensuel, c'est vrai que ça demande du temps et tout. Donc voilà, je comprends tout à fait ses raisons et il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à les découvrir. Son podcast et aussi découvrir, si vous ne les avez pas découverts, ses podcasts dans Analyse F1, c'est-à-dire les Rétro GP. Je confonds parce qu'il y a Mister Yo-Yo avec Rétro F1 et Ghislain avec Rétro GP, c'est d'où cette hésitation à chaque fois. Mais j'essaie quand même de ne pas me tromper, histoire de respecter les podcasts de chacun. Voilà, ceci étant dit, eh bien, on est parti pour parler du Grand Prix du Brésil un petit peu. Comme chaque Grand Prix du Brésil, il se passe quand même quelques trucs hein, dans la course. Et là, ça s'est surtout passé devant avec une bonne lutte entre Rosberg et Hamilton. Bon, ça s'est pas dépassé, repassé. Il n'y a pas eu de tentative franche de dépassement. Mais en tout cas, ils se sont livrés une lutte endiablée devant à coup de temps intermédiaire, à coup de temps autour. Et avec une grosse pression d'Hamilton derrière. Hein, Rosberg était en pole, deuxième Hamilton. Rosberg... Cette fois-ci, une nouvelle fois, pas d'erreur. Hein, pas d'erreur comme d'ailleurs au Mexique. Hein, il n'y avait pas eu d'erreur au départ. Pareil avec Hamilton qui essaye quand même d'essayer de tenter quelque chose à l'extérieur. Mais bon, il ne pouvait pas faire plus. Donc voilà, il a rongé son frein. Et puis, il a mis la pression sur Rosberg de façon quand même assez véhémente pendant quelques tours, pendant plusieurs tours même, pendant quasi toute la course, on va dire, sauf les, on va dire, 10-15 derniers tours où il a un peu lâché la pression et ses pneus étaient un peu usés à Hamilton. Mais sinon, Rosberg a très bien résisté à la pression. Pas d'erreur de sa part, hein, et ça, on peut lui tirer un grand coup de chapeau puisqu'on lui reprochait avant. Donc, c'est très bien de revenir à ce niveau. Rosberg pilote sans complexe, en somme, et il pilote surtout pour lui. C'est ça la différence. C'est qu'en cette fin de saison, il pilote pour lui et non pas contre Hamilton. C'est psychologique. C'est psychologique. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression, et j'en suis même quasi sûr, psychologiquement, il était obsédé par Hamilton qui était devant. Il était trop obsédé par ça, il pilotait par le prisme de son coéquipier. Et ça s'entendait dans les conversations radio, ça se ressentait à son langage corporel général en dehors du baquet. Et voilà, ça pouvait pas faire. Et il a été puni pour cela, et assez violemment. Ben, quand t'es contre un pilote de la trempe d'Hamilton, ça pardonne pas, hein. Dans une écurie dominante, ça pardonne pas. Et donc là, Rosberg est sans complexe. Il pilote vraiment pour lui, là. Pour lui, sans penser à Hamilton, vu qu'il peut plus penser à lui, vu qu'il y a plus il n'y a plus le titre en jeu. En plus, Rosberg a fait un travail, il l'a dit, il l'a avoué, il a fait un travail sur lui, sur son pilotage pour s'améliorer. Donc voilà, quand tout roule, et ben voilà, tout roule, hein, ça c'est le cas de le dire en Formule 1, c'est le cas de le dire, tout roule. Et du coup, il retrouve le niveau qu'on lui connaissait, notamment en 2014. Donc c'est très bien, c'est plutôt très bien. Et c'est surtout très important pour lui, parce que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette bonne fin de saison, cette excellente fin de saison de Rosberg, eh bien, il sera un numéro 2 aux oubliettes, hein, vraisemblablement. Il deviendra un pilote numéro 2, et ça, ce serait vraiment terrible pour lui. Donc voilà, c'est une belle réaction d'orgueil, un beau professionnalisme, et voilà, c'est très bien d'avoir ce mental en fin de saison, surtout après une longue saison en novembre, c'est pas mal. C'est beaucoup pas mal. Après, la question, c'est aura-t-il les ressources pour aller chercher un titre mondial? C'est-à-dire, sera-t-il, quand il y aura de nouveau la pression du titre et la pression de son coéquipier, sera-t-il se détacher un peu de son coéquipier justement pour aller chercher ce titre mondial et nous produire le même niveau qu'il nous produit? À voir, à voir. Et sera-t-il aussi accepter la défaite, hein, quand les week-ends où son coéquipier aura été plus fort et où il n'aura pu rien faire? Voilà. C'est les questions qu'on peut se poser, mais on en doute en tout cas pour l'instant, puisque cette année, il n'a pas été au niveau de 2014, hein, Rosberg, et Hamilton en plus avait haussé le ton, mais il entretient la flamme par cette fin de saison, et c'est ce qui compte vraiment pour le suspense pour 2016. Voilà, il est deuxième du championnat pilote de plus, donc c'est vraiment ce qu'il fallait pour lui. Ça aurait été vraiment honteux de finir à une autre place en étant dans une Mercedes aussi supérieur aux autres écuries, et Vettel il l'a brigué, hein, cette deuxième place, hein. Lui il prend tout ce qu'il faut prendre, Vettel, faut pas lui laisser non plus. Donc voilà, c'est très bien pour ça aussi. Et là j'en reviens au fait d'être un pilote numéro 2 chez Mercedes. Voilà, fallait surtout pas finir troisième au championnat du monde des pilotes, ça aurait été catastrophique. Du côté de Lewis Hamilton ce week-end, à mon avis, il voulait trop gagner ce Grand Prix du Brésil. Il l'a pris trop personnellement, trop à cœur. C'est le Grand Prix de son idole Ayrton Senna. Ayrton Senna a eu beaucoup de mal à le remporter, a attendu 8 participations. C'est pareil pour Hamilton. Enfin, Hamilton, ça en fait 9 là qu'il ne gagne pas au Brésil. Donc voilà, c'est un point commun, on va dire, intéressant, mais assez triste pour le pilote anglais du coup. Et il a eu des réactions pas forcément bonnes ce week-end, hein, suite aux qualifications. Suite à la course, hein, c'était pas le même langage corporel que d'habitude quand il perd. Bon, il a plus trop l'habitude de perdre, mais c'était pas comme par exemple au Mexique où il dirigerait bien la défaite, par exemple. Bon, il venait de remporter le championnat, c'est sûr, mais là il l'a pris trop personnellement ce Grand Prix, ça c'est clair. Et il a pas vraiment réussi à se détacher assez de ça dans son travail, sûrement. En tout cas, c'est mon analyse de ce que j'en vois. Ce n'est pas forcément ça, mais je pense que ça pourrait être ça. En tout cas, dommage, mais Rosberg a été plus fort ce week-end. Dommage pour Hamilton. Vettel encore sur le podium, ben voilà, c'est comme l'avait dit Martin Brundle sur le podium, c'est l'invité VIP, hein, des deux pilotes Mercedes, on peut le dire. Il ronge son frein, le pilote allemand, il attend son heure pour 2016, et même avant, hein, parce qu'avant le Brésil, il a dit, si je peux gagner le Brésil à Abu Dhabi, je tenterai, je ferai ce qu'il faut, hein, j'irai chercher ses victoires. Donc voilà, c'est vraiment un champion qui parle, et il attend son heure pour 2016, il espère vraiment avoir une voiture qui pourra le mener au titre et le mener surtout à lutter sérieusement pour le titre de championnat du monde avec Mercedes notamment. Voilà, on referme cette page du Grand Prix du Brésil et voilà déjà une dizaine de minutes de podcast et pourtant je n'ai parlé que du podium, imaginez. Donc, il faut vraiment que je fasse un podcast à part, hein, vous vous en rendez bien compte, la nécessité. de faire cela. Et ce sera le cas pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, je vous l'assure. Donc parlons un peu de Haas et fin team. Revenons un peu en général sur Haas. Vous n'avez peut-être pas tous suivi cette nouvelle aventure, cette nouvelle écurie qui s'annonce assez fraîche. En 2016, bien sûr, c'est une écurie américaine, l'écurie de Guignas, qui est assez connue aux États-Unis pour son entreprise Haas Automation, qui produit des machines-outils, et surtout pour son écurie de NASCAR, évidemment, Stewart Haas Team, qui a remporté, je crois, 2 titres ces 4 dernières années, si j'ai bien lu dernièrement, enfin, une écurie titrée en NASCAR. Et qui choisit d'entrer en F1 de façon différente de ce qu'on a pu voir d'habitude avec les autres écuries par le passé. Donc concrètement, en fait, Haas achète le maximum de pièces de sa monoplace ailleurs. Donc par exemple, hein, je ne vais pas tout citer, mais par exemple pour le châssis, ils font appel à Dallara. Donc Dallara, c'est eux qui produisent les châssis de Formule E. Enfin, ils aident à la production des châssis de base de Formule E. Et des châssis d'IndyCar surtout. Donc voilà, ça va être intéressant pour Dallara qui aura à cœur de bien réussir son entrée en F1 également par le biais de Haas. Et également, Haas achète diverses pièces de son auto à Ferrari qui lui fournit également l'unité de puissance. Donc c'est très intéressant parce que dans ce lien très important entre l'unité de puissance et la monoplace, dont on ne parle peut-être pas assez, mais on en parle quand même, hein, si vous écoutez bien les commentaires tout simplement sur Canal+, par exemple, c'est très important d'avoir une bonne alliance entre les deux, et là, vraisemblablement, ils pourront l'avoir plus vite que d'autres écuries, donc c'est intéressant. Leur pilote numéro 1, vous le savez, puisqu'on est en France, c'est le pilote français Romain Grosjean, qui a été désigné pilote numéro 1 chez Haas, donc c'est pas mal pour lui, hein, je l'avais dit, mais je vous renvoie au podcast sur le choix qui a été fait par Haas et qui a été fait par Grosjean de s'allier et qui date d'il y a quelques semaines. Et à mon avis, pilote numéro 1, il le restera, Romain Grosjean, puisque le deuxième pilote qui a été choisi il y a très peu de temps n'est autre que le Mexicain Esteban Gutiérrez. Vous le connaissez, il a fait 2 saisons en F1 et c'était pas Jojo. Sportivement, concrètement, les résultats ne parlent pas pour lui. Il a fait 2 saisons chez Sauber, assez mauvaises. Anonyme, on peut le dire, on a très peu entendu parler de lui, et quand on entendait parler de lui, c'était en mal, que ce soit en qualification, en course. Il a ramassé très peu de points, aucun coup d'éclat, et pas mal d'erreurs. Voilà, il faudra vraiment qu'il change de façon de piloter. Et est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? On verra, mais en tout cas, sportivement, il y avait des meilleurs choix à faire, et quitte à choisir chez Ferrari, il y avait par exemple, je pense en tout cas aux auditeurs chauvins, qui sont en train de penser à ce pilote. Je pense évidemment à Jean-Éric Vergne, qui fait partie de la famille Ferrari, par exemple. Et il y avait de meilleurs choix, évidemment, sportivement, qui ne font pas partie de Ferrari. Je pense à Stoffel Van Dorn, je pense peut-être à Kevin Magnussen, je pense à bien d'autres également. Voilà pour ce choix. Enfin, ce n'est pas tout pour ce choix, il faut apporter aussi la réponse. Pourquoi Gutiérrez a été pris, tout simplement, parce que s'il avait été nul par le passé, pourquoi Haas va le choisir, alors qu'ils ont choisi Grosjean, qui est quand même pas mal à côté? Eh bien, tout simplement parce que, contrairement à Vergne, Gutiérrez a été souvent dans le paddock de Formule 1 cette saison, et pas mal dans le garage Ferrari. Et dans ce garage, dans ce paddock, en 2015, il s'est montré sous un très bon jour en tant que pilote d'essai et de réserve de Ferrari. Parce qu'on l'a vu très impliqué, à chaque fois que les caméras étaient braquées sur lui, il était impliqué dans la course, dans son travail, il ne faisait qu'un, il n'était pas à côté, comme par exemple d'autres pilotes réserves, ils peuvent être un peu à côté, comme Carmen Jordá, on la sent un peu en retrait. Là, Gutiérrez, on le sent vraiment dedans. Et c'est très important, rien que pour l'image, et qu'on perçoit de lui, et que Ferrari veut envoyer évidemment aux gens. Et voilà, quand Ferrari avait des podiums, on sentait Gutiérrez avec les mécanos tout à fait heureux, alors qu'il ne pilote pas cette saison, donc il pourrait être un peu déçu, mais on l'a très peu vu se plaindre en tout cas. Ça aurait été déplacé de sa part en même temps après ces 2 saisons qu'il a faites. Et vu, on va dire, c'est un peu une promotion quand même. Quelque part, il n'est plus en F1, mais hey, il est dans le giron de Ferrari et on le voit très souvent, on va dire, dans le paddock, donc c'est pas mal. Et il faut espérer, surtout pour lui, qu'il ait appris des 2 champions du monde. qu'il côtoie assez souvent, qui sont donc Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Pourquoi? Parce que Esteban Gutiérrez, il a accès aux données de pilotage des deux pilotes Ferrari. Donc c'est très intéressant, c'est de qu'il puisse les analyser et voir par exemple, par rapport à ses saisons précédentes, que font Raikkonen et Vettel de différent. Et évidemment, pas uniquement concernant leur pilotage, également concernant leur façon de travailler en général, hein, leur façon de travailler dans leur approche des courses, dans leur façon de communiquer avec les ingénieurs, de donner leur feedback, leur retour. C'est très important pour Gutiérrez d'avoir fait ça et il faut espérer qu'il l'ait fait bien. On aura la réponse très vite. Hein. En 2016, dans la première partie de saison, après la première moitié, on pourra dire eh ben, il a appris ou il a très peu appris. Hein, et c'était du vent, c'était de la pure communication. Et oui, parce qu'en 2016, c'est peut-être la dernière chance pour lui. Je dis peut-être, parce qu'en temps normal, ça serait la dernière chance pour lui. Mais il a des soutiens financiers très puissants au Mexique. Et ben, nul doute que c'est une des raisons du choix de Guignas pour prendre Esteban Gutiérrez. Mais bon, ah, ça a volontairement omis, on va dire, de le dire, ça, que Gutiérrez a des soutiens financiers très puissants qui vont donc aider As, qui vont aider As également. Et en gros, As, il a fait un peu de la communication. Mais bon, dans sa communication, il a été bon puisqu'il a cité ce que je vous ai cité, c'est-à-dire le fait que Esteban Gutiérrez a été chez Ferrari et que ça va aider As, qui est motorisé par Ferrari. Et ça va l'aider aussi, enfin, en plus d'aider As par le fait que Gutiérrez aura appris pour son pilotage personnel et pour son abord des courses, eh bien, ça va aider As de manière générale concernant l'unité de puissance. Parce que Gutiérrez, pendant sa saison également chez Ferrari, il a vu comment fonctionnait l'unité de puissance, comment était intégrée l'unité de puissance à la monoplace Ferrari, a vu les données moteurs également, a eu accès à ces données. Donc Gutiérrez, enfin As en tout cas, compte vraiment sur Gutiérrez, il l'a dit, pour aider l'écurie américaine en 2016 à comprendre plus vite l'unité de puissance Ferrari. Et ça c'est très important, donc d'une part As est très intelligent du fait de sa nouvelle manière de procéder en entrant en F1, c'est-à-dire en achetant pas mal de pièces à Ferrari, comme ça, alliance, châssis, unité de puissance, ça devrait bien se passer. Et en plus, ils ont un pilote Ferrari qui a eu une expérience qui est censée être profitable à l'écurie américaine pour comprendre cette unité de puissance. Par exemple, quand il y a un problème, et ben peut-être que Gutiérrez pourra dire « Ah oui, on a connu ça l'année dernière, la saison dernière, c'était dû à ça, il faut faire ça. » Bon. Enfin, peut-être pas il faut faire ça, c'est peut-être plus le rôle des mécanos, des ingénieurs de dire ça, mais en tout cas, il pourra peut-être aider à comprendre, et c'est mieux. Bon, et également, pour des raisons également d'image, c'est très important dans les relations avec Ferrari d'avoir un nouveau lien pour As. Donc, ce nouveau lien s'appelle Gutiérrez. D'ailleurs, ça a été très certainement suggéré par Ferrari, puisqu'on a eu des rumeurs tout le long qu'il y aurait au moins un pilote qui ferait partie de la famille Ferrari chez As. Donc, je pense que Ferrari leur a suggéré de prendre un pilote de chez eux. Et ben As a choisi Gutiérrez. Donc sportivement c'est pas top, mais pour le reste pourquoi pas, c'est à voir. Mais bon, on est en droit d'avoir des doutes, ça c'est clair. À voir en 2016 ce qu'il va se passer. Et à Romain Grosjean également de ben directement d'asseoir sa position de pilote numéro 1. Sinon ça va être compliqué si on voit que Gutiérrez le bat. Eh bien, il pourra y avoir des raccourcis faciles du genre que ben, Gutiérrez, il est nul, on comprend pas. Donc, Grosjean, ça veut dire que c'est une fraude. Alors que ça pourrait vouloir dire également que Gutiérrez s'est amélioré. Donc, Grosjean doit aussi ne pas se reposer sur ses lauriers, si je puis le dire ainsi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager. Je vois que de plus en plus de personnes parmi vous le partagent. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Également, il faut que je fasse mon travail également pour partager le podcast. Je ne le fais pas suffisamment, ce travail de communication, mais je vous le promets que c'est en tête et que ça va venir pour amener encore plus de gens. Vous pourrez discuter du coup avec plus de passionnés de F1. Et peut-être à terme, j'espère qu'il pourrait y avoir une sorte d'émulation autour de ces analyses que je peux proposer, autour de ces émissions, etc., etc. Voilà, n'hésitez pas à en parler aux fans de F1 autour de vous. Bon. Et pour finir ce podcast, plus qu'hier et moins que demain, ça c'est sûr. Vivons notre passion. À bientôt.